Henri Gougaud, L'arbre d'amour et de sagesse, 5e cassette, 2e face, page 201. Jaïda, J-A-Y-D-A. Il était un jour une jeune fille nommée Jaïda. Elle n'avait aucun bien sur terre, sauf ses deux mains, son corps agile et son regard sans cesse étonné par la lumière du monde. Elle vivait dans une hutte de branches, au bord d'un ruisseau, se nourrissait de l'eau que lui donnait la source, des fruits que lui donnaient les arbres. Sa pauvreté était rude, mais elle ne s'en plaignait pas. Elle l'estimait ordinaire. Elle ignorait qu'en vérité, un esprit maléfique l'avait prise en haine et s'acharnait sans cesse à faire trébucher ses moindres espérances, à troubler ses moindres bonheurs, à tout briser de ce qui lui était destiné, pour qu'elle n'ait rien et qu'elle en meure. Or, un matin, comme Jaïda dans la forêt faisait sa cueillette d'herbes pour sa soupe quotidienne, elle découvrit dans un buisson une ruche sauvage abandonnée par ses abeilles. Elle s'agenouilla devant elle, vit qu'elle était emplie de miel tiédi par le soleil. L'idée lui vint de le recueillir. Elle pensa, bénissant le ciel, « J'irai vendre cette belle provende au marché de la ville. J'en gagnerai assez pour traverser l'hiver sans peine ni souci. » Elle courut chez elle, prit une cruche, s'en revint au buisson et la remplit de miel. Alors, l'esprit méchant qui veillait à sa perte sentit se ranimer sa malfaisance, quelque peu endormie par la monotonie des jours. Comme Jaïda s'en retournait, sa récolte faite, il ricana trois fois, esquissa autour d'elle un pas de danse invisible, empoigna une branche au-dessus du sentier et, agitant cette arme de brigand, comme passait la jeune fille, il brisa la cruche qu'elle portait sur l'épaule. Le miel se répandit dans l'herbe poussiéreuse. L'esprit mauvais, content de lui, partit d'un rire silencieux, se tenant la bedaine et se battant les cuisses, tandis que Jaïda soupirait et pensait « Quelle maladroite je suis !»« Allons !» Ce miel perdu nourrira quelques bêtes. Pour moi, Dieu fasse que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. » Elle s'en retourna, légère, les mains vides. Comme elle parvenait en vue de sa cabane, elle s'arrêta tout à coup sur ses gardes. Un cavalier venait entre les arbres au grand galop. À quelques pas d'elle, il leva son fouet, le fit tournoyer, traversa le feuillage d'un mûrier, fit claquer sa lanière sur la croupe de sa bête et lui passa devant, effréné sans la voir. De l'arbre déchiré tomba une averse de fruits. Bonté divine, pensa Jaïda, le ciel a envoyé cet homme sur ma route. Voilà qu'il m'offre plus qu'une cruche de miel. Elle emplit son tablier de mûres et reprit vivement le chemin du marché. Aussitôt, l'invisible démon qui n'avait cessé de la guetter se mit à s'ébouriffer, pris de joie frénétique, à se gratter sous les bras comme font les singes. Puis, se changeant en âne, il s'en vint braire auprès de Jaïda. Elle le caressa entre les deux oreilles. Il en parut content. Il l'accompagna jusqu'au faubourg de la ville. Là, elle fit halte un instant au bord de la grande route pour regarder les gens qui allaient et venaient. L'hypocrite Baudet, la voyant captivée, profita de l'aubaine. D'un coup sec du museau dans le panier gonflé de mûres, il fit partout se répandre la provision et, se roulant dedans, la réduisit en bouillie sale. Après quoi, satisfait, il s'en fut vers le champ. « Tant pis, se dit Jaïda, on ne peut tout avoir. J'ai l'affection des ânes, un vieux crouton de pain m'attend à la maison, mais malheur pourrait être pire. » Or, tandis qu'elle s'apprêtait à rebrousser chemin, vint à passer la reine du pays dans son carrosse bleu orné de roses peintes. Elle vit les mûres répandues, l'âne trottant, l'échine luisante de sucre. Elle en fut prise de pitié. « Pauvre enfant, se dit-elle, comme le sort la traite rudement. » Elle ordonna à son cocher de faire halte et invita Jaïda à monter auprès d'elle. La reine fut tant émue par l'innocence de cette jeune fille qui n'osait rien lui dire, qu'elle lui offrit une demeure de belle pierre. Jaïda s'y installa et devint bientôt une heureuse marchande. Mais le mauvais génie veillait, ruminant des fracas. Il découvrit un jour où étaient les biens les plus précieux de la maison, dans une remise derrière le logis. La nuit venue, il y mit le feu. Jusqu'au matin, il dansa autour de l'incendie, sans souci de roussir les poils de ses genoux. À l'aube, il ne restait que cendres et poutres noires où s'était élevée une belle bâtisse. Jaïda, contemplant ce désastre, se dit que décidément, elle n'était pas faite pour la richesse. Elle s'assit sur une pierre chaude. Alors, elle vit une colonne de fourmis qui transportait leur réserve de blé, grain par grain, de dessous les gravats, en un lieu plus propice. Jaïda, pour les aider, souleva un caillou qui encombrait leur route et se vit aussitôt éclaboussé d'eau fraîche. Sous la pierre bougée se cachait une source. Les gens autour d'elle assemblés s'émurent et s'extasièrent. Une vieille prophétie avait situé en ces lieux une fontaine de vie éternelle que personne n'avait jamais su découvrir. Le grimoire disait que seul la trouverait un jour, après un incendie, au bout de longues peines, une jeune fille autant aimante qu'indifférente à ses malheurs. Cette jeune fille était enfin venue. On lui fit une grande fête. Jaïda, depuis ce temps, est la gardienne de cette source, la plus secrète et la plus désirable du monde. À ceux qui viennent la voir, s'ils savent aimer et s'ils savent enfin que le malheur ne vaut pas plus que poussière emportée par le vent, on dit qu'elle offre à boire l'immortalité dans le creux de ses mains. La cité des ruses. Il était autrefois, dans la région d'Antioche, A-N-T-I-O-C-H-E, un habile marchand. Un jour que cet homme errait nonchalamment parmi les étalages du souk des charpentiers, il entendit parler d'une ville où le bois de santal, S-A-N-T-A-L, c'est un bois parfumé, extraordinaire, valait le prix de l'or. L'œil soudain allumé, il se dit que c'était là l'occasion ou jamais d'amasser de confortables bénéfices. Il décida donc d'acheter 100 chariots de ce bois parfumé et d'aller les revendre 10 fois leur prix dans cette cité mirifique. Il céda sa maison et ses entrepôts à un négociant de son voisinage, en eut assez d'argent pour payer les 100 charges de bois précieux et, chevauchant sa mule à la tête de sa caravane, il se mit en chemin. Il voyagea 3 mois. Quand il parvint en vue de cette ville qui lui parut de loin belle comme un diamant parmi les palmeraies, « Ô fortune, dit-il tout exalté, je t'ai tant poursuivi et te voilà enfin au bout de cette route. » Il ignorait que les gens qui peuplaient ces ruelles lointaines étaient pour la plupart d'ingénieux filous. Dès que fut annoncée la prochaine arrivée du marchand, un boutiquier parmi les plus rusés de la cité se dit qu'assurément cet homme, avec ses 100 chariots de santal, allait réduire à rien les quelques vieilles planches de ce bois hors de prix qu'il avait dans son échoppe. « Il faut qu'avant demain, son trésor soit à moi, » se dit-il. Il sortit de la ville et là, près du rempart, à l'écart du chemin, il posa son bois rare sur quelques brins de paille et alluma du feu. Son parfum vint bientôt chatouiller les narines des gens qui allaient et venaient sur la route voisine. Le marchand, parmi eux, renifla, haussa les sourcils et courut au bonhomme. « Que fais-tu là ? » dit-il. « Du feu pour dîner, » répondit le filou. « Misère ! Tu brûles du santal ? » ?»« C'est du bois de cuisine, il ne vaut presque rien. » « Et toi, que portes-tu dans tes charrettes ? »
du santal, du santal, du santal et rien d'autre, répondit le marchand la voix mourante. On m'avait dit qu'ici il valait le prix de l'or.
Brave homme, je te vois accablé, dit l'escroc, l'air benoît.
Ton bois coûte chez nous un sou la charge d'âne.
Allons, tu m'as l'air honnête et tu me fais pitié. Je veux bien, par pure bonté, acheter tes chariots pour un petit boisseau de
ce que tu voudras.
Tout ce chemin pour rien, et me voilà ruiné, soupira le marchand.
Mon santal est à toi, bonhomme, Dieu te garde.
Il entra dans la ville à pied comme un vagabond. Il était épuisé. Il loua pour deux sous une chambre chez une vieille femme. Le soir venu, devant un dîner maigre, ils parlèrent ensemble. Le marchand raconta tristement son long voyage et sa désillusion. « Pauvre naïf, lui dit la vieille, le santal, dans cette ville, se vend plus cher que l'or en bûche. Ne sais-tu pas que tu es ici dans la cité des ruses ? Les gens de ce pays sont tous brigands, tricheurs, souffleurs de vent. Prends garde à leur discours, sinon tu perdras tout, ton manteau, tes bottes, ta chemise et peut-être ta vie. » Le lendemain matin, le marchand s'en alla visiter la cité. Devant une boutique, il rencontra deux hommes occupés à jouer aux dés sur le pas de la porte. « Ami, joue avec nous, lui dirent-ils. Si tu gagnes, nous te donnerons ce que tu voudras. Si tu perds, tu nous obéiras, quoi que nous demandions. Cela t'en convient-il ? » Le marchand répondit, « Jouons, je gagnerai. » Il joua, il perdit. Les deux hommes lui dirent, « Bois la mer, c'est notre ordre. » L'autre se rebiffa, le ton bientôt monta, on s'attroupa autour de leur dispute. Parmi les gens, soudain, surgit un mendiant borgne. « Tu m'as volé mon œil !» cria-t-il au marchand. « Rends-le-moi, ou sinon, paie son prix !» Comme il parlait ainsi, un pauvre hère à la poitrine nue bouscula ses compères, jeta un bout de marbre au pied du voyageur et lui dit « Tu m'as volé la vie que j'avais sur le dos. Taille-moi dans cette pierre une chemise neuve, ou sinon, paie son prix !» Tous se mirent à gesticuler, à hurler, à juger à grand bruit de tout et de rien. Ils firent bientôt tant de vacarme que la vieille se mit à sa lucarne. Elle vit le marchand assailli par mille mains et bouche braillarde. Pauvre homme, se dit-elle. Elle sortit dans la rue.
Holà, les gens, cria-t-elle en piquant ça et là de ses coups de pointu. Il sera temps demain d'aller voir le juge si vous avez à plaider. D'ici là, bonne nuit.
Elle prit le marchand par la main et l'entraîna chez elle en grognant. Je t'avais dit d'éviter les querelles. Tu es perdu si je ne t'aide pas. Allons, sèche tes larmes, écoute-moi. Elle le fit asseoir devant un bol de lait, leva son doigt crochu et dit encore à voix basse. Mon fils, je sais comment te dépêtrer de ces mots qui t'emberlificotent. Ces truands pour maître, un aveugle si vieux et si sage qu'il a réponse à tout. Chaque soir à minuit, ils vont lui rendre compte des affaires en cours, lui exposer leurs plans, lui demander conseil. Ce soir, déguise-toi en mendiant anonyme. Va chez ce vieux savant avec les autres, assieds-toi dans le coin le plus sombre et tends l'oreille à ce que diront les hommes. À l'heure dite, le marchand s'en fut donc au conseil des rusés. Il prit place à l'écart, observa l'assemblée. Chacun vint à son tour devant l'aveugle assis sur un tapis, dans la lueur tremblante d'une rampe à huile. Le premier à parler fut le truandeur de bois rare. « Longue vie, père sage, dit-il pour commencer. Un marchand aujourd'hui est arrivé aux portes de la ville avec 100 charges de santal. Je lui ai tout acheté pour un petit boisseau plein de ce qu'il voudra, même s'il veut de l'or. L'affaire est magnifique. Erreur, mon fils, lui répondit l'aveugle. Celui qui vient faire ici commerce ne peut être qu'un homme infiniment subtil, sûr de sa force et de son savoir-faire. Sache donc que demain, quand tu iras chercher ces charges précieuses, ce marchand te dira « Je ne veux en échange qu'un boisseau de puces, moitié mâle, moitié femelle, toute vêtue d'argent et armée d'épées rouges. Que feras-tu alors ? Tu seras obligé de rendre le santal et de payer en plus un dédommagement de 1000 pièces d'or. Ruser est un grand art. Tu dois encore apprendre. Va, mon fils, et médite. » Le deuxième à parler fut le joueur de dés. Père sage, dit-il, après avoir vaincu ce marchand de santal, je lui ai ordonné d'avaler la mer. Il n'a su que répondre. Dès demain, je le traînerai devant le juge. Il te répondra, gronda le vieil aveugle. Il dira, je veux bien assécher la mer, mais arrête d'abord tous les fleuves du monde, que je boive tranquille. Maître, dit le troisième bougre, j'ai accusé cet homme de m'avoir volé l'habit que j'avais sur le dos, et je lui ai donné l'ordre de m'en tailler un neuf dans un carreau de marbre. Le vieux lui répondit, fils, tu me déçois. J'attendais mieux de toi. Tu perdras ton procès, car ton homme y viendra avec un pot de fer. Il te dira, compère, file dans ce métal un fil assez solide et fin pour coudre comme il faut ta chemise nouvelle. Et que répondras-tu ? Le borgne, bombant le torse, vint alors annoncer qu'il avait accusé le marchand de santal de lui avoir pris l'œil qui lui manquait. « Fils inconséquent, rugit le vieil aveugle, l'homme te répondra demain devant le juge. Arrache ton bon œil, j'arracherai un des miens et nous les pèserons. S'ils sont de même poids, je n'aurai rien à dire et tu les prendras tous les deux. Vous êtes tombés sur plus malin que vous. » Chacun resta silencieux, tête basse. Le marchand s'en alla sur la pointe des pieds. Le lendemain matin, au palais de justice, il répondit à ses accusateurs les paroles mêmes qu'il avait entendues du maître des ruses. Tous le saluèrent avec admiration. Chacun paya le prix de son procès, 1000 pièces d'or. Au voleur de santal, il reprit ses charges, les vendit enfin leur prix et fit fortune. À la vieille secourable qu'il avait conseillée dans son dénuement, il offrit une maison avec 4 servantes. Après quoi, rêvant à l'art des tromperies, il retourna chez lui et l'on dit qu'il devint dans sa riche retraite un expert éminent en subtilité gaie. La voie des sables. Il était une fois un vieux fleuve perdu dans les sables du désert. Il était descendu d'une haute montagne qui se confondait maintenant avec le bleu du ciel. Il se souvenait avoir traversé des forêts, des plaines, des villes, vivaces, bondissants, puis larges, fières et nobles. Quel mauvais sort l'avait conduit à s'enliser parmi ces dunes basses où n'était plus aucun chemin. Où aller désormais ? Et comment franchir ces espaces brûlés qui semblaient infinis ? Il l'ignorait et se désespérait. Or, comme il perdait courage à s'efforcer en vain, lui vint des sables une voix qui lui dit « Le vent traverse le désert, le fleuve peut en faire autant. » Il répondit qu'il ne savait voler comme faisait le vent. Fais donc confiance aux brises, aux grands souffles qui vont, dit encore la voix. Laisse-toi absorber et emporter au loin. Faire confiance à l'air hasardeux, impalpable, il ne pouvait accepter cela. Il répondit qu'il était un terrien, qu'il avait toujours poussé ses cascades, ses vagues, ses courants dans le monde solide, que c'était là sa vie et qu'il lui était inconcevable de ne plus suivre sa route vers des horizons sans cesse renouvelés. Alors la voix lui dit, ce n'était qu'un murmure. La vie est faite de métamorphoses. Le vent t'emportera au-delà du désert. Il te laissera retomber en pluie et tu redeviendras rivière. Il eut peur tout à coup, il cria, « Mais moi, je veux rester le fleuve que je suis !»« Tu ne peux, » dit la voix des sables, « et si tu parles ainsi, c'est que tu ignores ta véritable nature. Le fleuve que tu es n'est qu'un corps passager. Sache que ton être impérissable fut déjà maintes fois emporté par le vent, vécu dans les nuages et retrouva la terre pour à nouveau courir, ruisseler, gambader. Le fleuve resta silencieux et comme il se taisait, un souvenir lui vint, semblable à un parfum à peine perceptible. Ce n'est peut-être rien qu'un rêve, pensa-t-il. Son cœur lui dit, « Et si ce rêve était ton seul chemin de vie désormais ?» Le fleuve se fit brume à la tombée du jour. Craintif, il accueillit le vent qui l'emporta, et soudain, familier du ciel où planaient des oiseaux, il se laissa mener jusqu'au sommet d'un mont. Loin au-dessous de lui, les sables murmuraient. « Il va pleuvoir là-bas où pousse l'herbe tendre. Un nouveau ruisseau va naître. Nous savons cela. Nous savons tout des mille visages de la vie. Nous qui sommes partout semblables. » La voix sans cesse parle. Comme la mémoire du monde, le conte des sables est infini. La fourmi amoureuse. Le roi Salomon, S-A-L-O-M-O-N, cheminant un jour par les sentiers du désert, rencontra une fourmilière. Toutes les fourmis aussitôt vinrent à lui pour saluer l'empreinte de ses pas. Une seule ne se soucia pas de sa présence. Elle resta devant son trou, occupée à un labeur apparemment infini. Salomon l'aperçut à l'écart de ses compagnes. Il se pencha sur son corps minuscule et lui dit, « Que fais-tu donc, bête menue ?» La fourmi lui répondit sans se laisser autrement distraire de son travail. « Vois, roi des rois, un grain après l'autre, je déplace ce tas de sable. »« Ô fourmi généreuse, lui dit Salomon, n'est-ce point là un labeur exagéré pour tes faibles forces ? Ce tas de sable te dépasse de si haut que tes yeux ne sauraient en voir la cime. » Aurais-tu la longévité de Mathusalem et la patience de Job que tu ne pourrais espérer l'effacer de ta route ? Ô grand roi, lui répondit la fourmi, c'est pour l'amour de ma bien-aimée que je travaille ainsi. Cet obstacle me sépare d'elle. Rien ne pourra donc me distraire de son effacement. Et si, à cette œuvre, j'use toutes mes forces, au moins je mourrai dans l'étrange et bienheureuse folie de l'espérance. Ainsi parla la fourmi amoureuse. Ainsi le roi Salomon découvrit-il sur le sentier du désert le feu de l'amour véritable. Les savants et le lion. Un jour d'entre les jours, deux savants se promenaient dans le désert. Nasruddin, le simple, N-A-S-R-U-D-D-I-N, les accompagnait. Il avait reçu d'eux un sou troué pour éventer leur visage, tandis qu'ils cheminaient. Ces deux conséquents érudits, traînant la babouche sous leur bedaine et devisant gravement, faisaient assaut de tant de sciences que Nasruddin, ébahi, en oubliait parfois d'agiter sa branche de palmier devant leur face. Il n'éventa bientôt plus que sa propre figure quand il entendit le premier de ses sages révéler à son acolyte. « Ami très vénéré, donnez-moi n'importe quel relief de carcasse animale, un os, une vertèbre, une dent, même usée, et je me fais fort de reconstituer sur le champ, autour de ces débris, la chair disparue de la bête, ses molécules, ses atomes, son sang, ses organes, sa peau, bref, son corps tout entier. N'est-ce point là de l'admirable biologie ?
Bagatelle, très estimé compagnon, bagatelle, répondit l'autre, je dirais même plus, faribole, balbutiement de novice.
Car moi, ayant fait cela, de quoi suis-je capable, dites-moi ? Osez le pressentir, le flairer, l'avouer. Oui, vous avez deviné.
Inclinez-vous donc, monsieur. Oh, pas devant moi, qui ne suis qu'un fétu de paille dans le vent cosmique qui nous emporte tous vers l'éternité, mais devant la science, monsieur. Ma science qui me permet à moi, monsieur, d'insuffler la vie dans le corps de votre bestiole, de ressusciter votre cobaye pantelant, mon tout bon, de faire qu'il se dresse sur ses pattes et respire à nouveau l'air de la création, mon tout petit. Et ne sommes-nous point là à la hauteur de Dieu ? Oui, mon cher, mon minuscule disciple, grâce à moi, nous y sommes.
Devisant ainsi dans l'humble simplicité des sages, ils rencontrèrent au bord du sentier le crâne d'un lion. Les deux savants l'examinèrent avec une gourmandise d'experts, puis, oubliant le monde alentour, ils se défièrent aimablement de prouver l'étendue de leur science. Le premier fit ce qu'il avait dit sans la moindre faute. Il marmonna quelques formules considérablement intelligente et versa 3 gouttes de potion sur le crâne du fauve où l'on vit aussitôt repousser son museau, ses babines troussées, sa langue entre les crocs, sa royale crinière, son pelage luisant, son corps aux muscles souples et ses pattes griffues, enfin sa queue posée sur son flanc alangui. Alors, Nasruddin le simple, éventant la face, les épaules, les pieds du deuxième savant, risqua sa misérable voix. « Je ne doute pas de votre éblouissant génie, ô sage illustrissime, dit-il. Vous êtes assurément capable de rendre la vie à ce fauve que vient de fabriquer votre considérable collègue. Cependant, j'ose espérer que vous préférerez goûter à ces quelques oranges que j'ai portées pour vous. » Il sortit de son sac fébrilement ses fruits.
« Vous tremblez, c'est trivial !» répondit le savant en riant doucement, la bouche en cul de poule.
« Sachez, mon ridicule ami, que l'homme de science est le grand prêtre de la puissance créatrice. Il ne saurait prendre en compte les effrois des timorés et les jérémiades des obscurantistes. Il peut rendre force et souffle à la bête. Il le fait. Alléluia. Et par tous les dieux et les diables surpassés, advienne que pourra, l'avenir est à ceux qui osent. » Il retroussa sa manche et le geste assuré, il versa 1 goutte de son médicament sur le front du lion.
La bête se frotta une oreille contre les cailloux, mais parut décidée à ne sortir pour rien au monde de son sommeil sempiternel.
Une 2e goutte mouilla le coin d'un œil qu'il ouvrit aussitôt.
Il bâilla, se gratta mollement la crinière.
Nasruddin laissa là son sac et ses agrumes et s'en fut chercher refuge sur la plus haute branche d'un arbre mort. Il vit de son perchoir 1/3e goutte s'écraser sur le museau du lion endormi. L'animal se dressa, salua le soleil d'un rugissement fier.
Dieu, dit l'homme de science, bras ouverts à l'extase, ne suis-je pas très grand?
Dieu ne répondit pas, mais le lion le fit.
Le lion, c'est connu, parle à coups de croc.
Il lança une patte et l'autre,
ouvrit sa gueule énorme, dévora les savants,
et se sentant soudain une envie de tendresse, s'enfuit la truffe au vent chercher une lionne parmi les dunes du désert. L'amant véritable. C'était un homme droit, un amant véritable. Un jour, après avoir médité une pleine année dans une grotte du désert, il s'en alla frapper à la porte de sa bien-aimée. Derrière la porte close, il entendit sa voix. Elle demanda : qui est là ? C'est moi, dit l'homme sur le seuil. Il n'y a pas de place pour toi et moi dans la même maison, répondit la voix de sa bien-aimée derrière la porte close. Alors cet homme droit, cet amant véritable, s'en retourna au désert où une pleine année encore il médita. Quand enfin il revint frapper à la même porte, à nouveau il entendit la voix de sa bien-aimée. À nouveau elle demanda : qui est là ? Cette fois, l'homme droit répondit : c'est toi-même. Et la porte s'ouvrit. Afrique. Afrique noire. Le singe qui voulut être roi. Un singe, s'éveillant un matin sur son lit de feuillage, s'étira au soleil, se gratta sous les bras, souffla fort par le nez et sentit tout à coup planter dans son esprit une idée lumineuse. « Je suis beau, puissant, respectable, se dit-il, pourquoi diable ne serais-je pas moi, l'habitant des verdures, grand maître d'ici-bas. L'homme mérite-t-il plus que moi la confiance de Dieu ? Non ! Il est arrogant, sans souci, sans pitié pour ceux qui l'environnent. Je le vaux 1000 fois, soit dit avec l'humilité qui convient au vrai sage. Il serait donc normal que notre Créateur le rabaisse à ma place et m'élève à la sienne. La royauté du monde, voilà ce qu'il me faut. Allons entretenir notre Père Céleste de cet intéressant projet. » Ayant ainsi pensé, il se dressa, grimpa en 4 bonds d'athlète au sommet de son arbre, tendit sa face au ciel et appela l'inventeur de la vie. Dieu, aussitôt, parut devant lui sur la branche.
« Que me veux-tu, mon fils ?»«
Seigneur, répondit l'autre, pourquoi as-tu fait l'homme gouverneur de la terre ? Il est incompétent, cruel et si gonflé d'orgueil qu'il se prend parfois pour toi-même. Bref, je ne veux pas médire, mais il faut que tu saches. Tout ce qui vit ici sous son autorité t'ignore, te raille et te maudit. »« Vraiment ? Dit Dieu. »
Vraiment, ô Père incontesté, moi seul, c'est honoré comme à tout instant tu dois l'être. Sacre-moi, roi du monde, charge-moi pour ton bien de ce fardeau, et nul n'osera plus négliger ta gloire, je t'en fais le serment.
Est-il possible qu'on n'éprouve plus aucun bonheur à vivre ? Demanda Dieu perplexe. Écoute, fils velu, allons ensemble par les chemins. Et si nous découvrons un seul être, enfant d'homme ou d'animal, brin d'herbe ou rocher, qui maudisse la vie que je lui ai donnée, je te fais à l'instant, promis, juré, craché, maître des créatures. »
Le singe, sûr du mal qui règne sur la terre, descendit de son arbre et tandis qu'il battait sa poitrine bombée au rythme du tam-tam de guerre. « Vois-tu ton ombre, fils ?» murmura Dieu à son oreille. « C'est moi. Va, je te suis. » Et l'autre s'en alla, flairant l'air, l'œil luisant. À peine avait-il fait 10 pas sur le sentier qu'il buta de l'orteil contre un caillou à demi enfoui dans la poussière.
« Aïe ! La brute épaisse » couina-t-il, sautillant ça et là sur un pied. « Inutile, seigneur, de chercher plus avant. Ce bout de roc n'honore pas la vie. Il la cabosse, l'entrave, la meurtrit. Ne suis-je pas déjà assez justifié ?»«
Prends-le dans ta main droite, lui dit Dieu, et prends dans ta main gauche une pierre semblable. Heurte-les. » Le grand singe obéit. Du choc jaillit une étincelle.
« Du feu !» dit Dieu, riant. « De l'éclair, de la vie !»
C'est là le chant du cœur des pierres. Il me plaît, il m'émeut. « Passons notre chemin, mon fils. Ce n'est pas ce caillou qui te sacrera un roi. » Le velu ronchonna et poursuivit sa route, le dos rond et les bras ballants. Vers midi, il parvint au bord d'un ruisseau. Il s'accroupit, but à grands coups de langue et dit en désignant les vagues scintillantes.
« Peut-on vraiment vous honorer, Seigneur, en fuyant sans repos comme fait ce courant? Voyez-le se hâter, voulez-vous mon avis? Il déteste votre présence. »
Les poings aux hanches, il ricana, l'air méchamment content. Des bruissements de l'eau montèrent ses paroles. « Frère, que dis-tu là? Je vais partout où l'on m'espère, dans l'air, dans le bec des oiseaux, dans les mains qu'on me tend. Regarde l'arc-en-ciel, c'est ma prière. Regarde les jardins, c'est moi qui les abreuve. Je suis l'ouvrière de la vie, je travaille à la beauté du monde. Ce n'est certes pas moi qui te sacrerai roi.
« Va-t'en au diable !» grogna le singe.
Il cogna le sol du talon, tendit l'index à des huttes lointaines. « Allons chez les humains, dit-il, ils me justifieront, je connais leur malice. » À l'entrée du village, au pied d'un arbre sec, un lépreux gémissait, offrant au ciel ses mains harcelées par les mouches. Le singe vint à lui, battit à petits coups son épaule et lui dit « Homme, je te comprends, tu as fort à te plaindre. « Admets bien franchement, ta vie est un enfer. Dieu est un père insupportable. Crache donc ton vinaigre, ami. Nous t'écoutons. » L'homme lui répondit. « Moi, maudire la vie? Singe, ne vois-tu pas que si je souffre ainsi, c'est par amour pour elle? Mon corps est repoussant. Je n'ai ni femme ni maison, mais je peux encore goûter la bonté du soleil, les lumières du soir, les silences de l'aube. Chaque jour qui se lève est un cadeau de Dieu.
Ce n'est pas ce lépreux qui te sacrera roi, dit une voix paisible à l'oreille du singe.
L'autre, tout ronchonnant, s'en revint au chemin, s'en fut de quelques pas. Il s'arrêta bientôt, l'œil soudain allumé.
« J'entends quelqu'un gémir, dit-il. »
Un aveugle venait, tâtonnant du bâton le long des murs de terre. Comme il passait dans l'ombre du chercheur impatient, il tourna çà et là son visage et balbutia. « Seigneur, Seigneur, donnez-moi la lumière. »
« La lumière, c'est moi, murmura Dieu. Je suis là. » Il me cherche. Laisse-le donc aller, ô singe. Ce n'est certes pas lui qui te sacrera roi.
Une femme, voilà ce qu'il me faut, marmonna le velu, les sourcils batailleurs. Regarde celle-là qui va laver son linge.
entend la criailler contre son nourrisson qui lui mange le sein.
Il vint à sa rencontre.
« Oh, toi que je cherchais, lui dit-il, ouvre ton cœur et parle sans crainte à ton grand frère des forêts. Ton époux te bat-il ? »
La femme répondit. « Parfois, il est injuste.
Et ce fils qu'il t'a fait ne t'irrite-t-il pas ? »
« Quand il crache mon lait, lui dit la femme, il m'inquiète et je gronde. »
« Avoue-le donc, ma sœur, la vie te pèse et rudement. »
La femme répondit en serrant l'enfant turbulent sur sa poitrine. « Il m'arrive en effet de la trouver bien lourde.
Sais-tu qui t'a chargé de ce fardeau de jour que tu traînes ici-bas ? » dit l'autre triomphant. « C'est Dieu ! Tu vas donc le maudire à belle voix sonnante !»
Ce fut son dernier mot dans la langue des hommes, car la jeune mère le contempla avec dans ses yeux tout à coup écarquillés un éclat si naïvement innocent et réprobateur que le singe en perdit la parole et jamais ne la retrouva. Et savez-vous ce que Dieu fit afin que soit à jamais bénie la femme qui avait su chanter plus haut que tous la louange de la vie par la seule lumière de son regard? Il fit d'elle l'unique créature capable d'amour aussi vaste que sa main, la main de Dieu qui tient le monde. Fin de la deuxième face de la cinquième cassette, Henri Gougaud, L'arbre d'amour et de sagesse, page 222.